Isabelle Fontaine, bon matin.
Bonjour Steve.
Lorsqu'on parle élections fédérales qui s'en viennent assez rapidement l'automne prochain, on est en droit de se demander, y aura-t-il ingérence étrangère? Rappelons-nous les élections américaines où il y a
Absolument.
Eu, disons, une certaine pression russe à différents niveaux, mais qui a été reconnue et prouvée de par différentes enquêtes. Mais mettons qu'il y a eu une ingérence russe. Une pression certaine. Mais là, on s'en va où avec ça? Puis est-ce que les réseaux sociaux vont collaborer? Comment ça va se passer?
Bien, écoute, c'est justement, il y a eu un rapport publié hier par le Centre de la sécurité des télécommunications du Canada sur cette question-là. Quelles sont les cybermenaces, les menaces d'ingérence étrangère dans le processus démocratique? Puis je veux juste t'indiquer trois choses qui m'ont vraiment surpris de ce rapport-là. La première, c'est qu'en 2018, il y aurait eu la moitié des processus démocratiques dans les démocraties avancées, là, dans les démocraties développées, qui aurait fait l'objet de cybermenaces ou d'influences étrangères.
C'est quand même pas mal.
Une sur deux.
À différents niveaux, je comprends, là, mais ça peut aller de faux votes jusqu'à des publications en faveur d'un candidat ou d'un autre. Là,
exactement. Enfin, une tentative de manipulation de l'opinion, puis on reviendra. Le deuxième chiffre qui est vraiment surprenant, c'est que 88% de ces tentatives seraient des motivations stratégiques par des ennemis politiques, là, donc par d'autres pays ou d'autres organisations qui font le choix délibéré de faire ça pour des motivations stratégiques. Donc, pas juste des groupes malveillants qui voudraient simplement être de mauvaise foi. Non, ce sont des gestes délibérés,
stratégiques, calculés. Par exemple,
88%,
la Russie, là.
Exactement.
On revient sur la Russie. Mettons, on se disait, eux, par exemple, un candidat comme Trump, c'est pas mal plus avantageux pour nous. On va le faire dans cette direction-là.
Exactement. Puis le troisième élément qui est important dans le rapport, c'est que ça cible directement les électeurs en grande majorité.
Okay.
Donc, on laisse de côté les tentatives de hacker des sites web ou les directions des élections ou même les partis politiques et les candidats pour viser directement les électeurs. Et ce qu'on essaye de faire, effectivement, tu l'as dit avec Trump, c'est de favoriser des candidatures, mais aussi peut-être d'exacerber les divisions dans l'opinion publique, de créer des schismes, de nuire à la paix sociale d'une certaine façon, de favoriser le développement d'idées, de certaines idées au détriment de d'autres, ou des positionnements qui seraient sur la scène internationale, qui auraient une influence sur le contexte international.
C'est assez intéressant parce qu'on fait une supposition, là, mettons SNC-Lavalin, ça ne vient pas de l'externe, là, mais mettons que tu peux faire déclencher un genre de conflit à l'intérieur d'un pays de cette ampleur-là, bien, pendant que le premier ministre, le président ou l'autre dirigeant, peu importe le titre qu'il porte dans ce pays-là, ben, il est occupé à gérer cette crise-là. Peut-être qu'il n'y a pas le temps de s'occuper de l'international.
Il n'y a pas le temps de s'occuper de l'international. Il n'y a pas le temps de s'occuper des questions d'ordre de sécurité nationale ou d'ordre militaire ou même économique. Puis tu sais, on dit ça, le meilleur exemple qu'on a eu, c'est tout récemment, là, puis je suis pas mal certaine que plusieurs personnes s'en sont rendues compte, quand le gouvernement du Québec a annoncé l'annulation des 18 000 fameux dossiers d'immigration là, au mois de janvier, là, on a eu droit à une attaque de ce type-là. Donc, si vous avez porté attention, soudainement, il y a eu un très grand nombre de comptes Twitter qui ont été créés de gens qui avaient l'air d'être des monsieur, madame, tout le monde et qui se disaient eux-mêmes des victimes de cette annulation-là, donc des supposés candidats à l'immigration qui voyaient leur demande rejetée ou annulée et qui là, en appelait aux Québécois ou dénonçait la situation. Puis là, quand tu regardes un peu plus loin, tu te rends compte que ces comptes-là...
C'est
un faux profil. Il n'existe pas depuis longtemps.
Mais Isabelle, ça pousse la paranoïa. Imagine la paranoïa, toi.
Mais c'est complètement fou. Puis c'est pas inusité. On en voit de plus en plus. Puis ce qui était vraiment surprenant hier, c'est d'entendre la ministre des Institutions démocratiques dire un peu... Surprenant, c'est pas si surprenant que ça, mais... mentionner son impuissance, en quelque sorte, ou l'impuissance des États par rapport à ça, hein, parce qu'il faut que les États s'en remettent finalement aux géants du web, aux grandes plateformes qui sont partout à travers le monde. Elles n'ont pas tant de moyens concrets d'agir. En tout cas, la ministre disait hier qu'il n'y aurait pas de moyens concrets de prix pour contrer cette menace-là d'ici l'élection, c'est évident.
Donc, nous serons à la merci de ce qui va passer. On ne sait pas.
En fait, nos gouvernements sont un peu impuissants. Après ça, c'est sûr qu'il faut s'en remettre à nous. T'sais, nous, comme électeurs, là, on est visés par ça.
La vigilance.
D'abord, prendre conscience que ça existe, qu'il y a des gens, des groupes, des pays mal intentionnés qui tentent d'influencer nos opinions. Ensuite de ça, toujours vérifier nos sources. Hein? Quand vous prenez des nouvelles, est-ce que ce sont des médias sérieux? Est-ce que ça semble crédible? Le journaliste qui l'a écrit? La plateforme? Chercher un peu d'où viennent ces nouvelles-là. Aussi, les individus que vous fréquentez fréquentez virtuellement? Est-ce que ce sont des gens que vous connaissez vraiment dans la vraie vie? Est-ce que soudainement, le comportement ou le genre d'opinion qu'ils diffusent via leur compte de médias sociaux, est-ce qu'il est conforme à leurs activités habituelles? Mm-hmm. Si soudainement, vous constatez qu'un ami publie toutes sortes d'affaires bizarres ou de trucs d'opinion, puis que il s'était jamais vraiment intéressé à la politique avant, puis soudainement, il y a des opinions virulentes et marquées,
posez-vous des questions.
T'sais.
En 30 secondes,
soyons vigilants.
Qui va sauver le PLQ?
Ah, c'est une excellente question, mais ce départ-là d'André Fortin, qui pourtant était porté par beaucoup de gens à l'intérieur de la machine, hein, de très solides organisateurs, des libéraux de longue date qui voyaient en lui le sauveur, Robert Bourassa, là, certains disaient, et qui décide
de ne pas briguer
la chefferie pour des raisons familiales. Hein. Je pense qu'on le verra encore plus du côté des hommes. Et là, ça change complètement la donne. Mais pour André Fortin, ça doit être une décision très difficile parce que ce genre de contexte qui lui était particulièrement favorable, ça ne repasse pas nécessairement une deuxième fois dans une vie.
Isabelle Fontaine, merci. On se reparle demain.
À demain.